vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié,
vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale,
le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, la star d'RMC Running, le meilleur consultant course à pied de France, évidemment. Salut Johan, ça va ?
Salut à tous, salut Benoît, ça va ?
Tu continues tes footings dans l'eau ? Oui, ça continue tout
ouais, seul ? Bah tu vois, ouais, réveil à 6h, hein, donc là si je suis pas en forme, ça vient de là. Hein.
Quelle horreur ! Dans l'eau à 6h.
Piscine, dans l'eau, à 6h02, je suis dans l'eau. Oh. Dans une eau pas bien chaude, hein, tu vois, pas un jacuzzi, hein.
C'est beau la vie d'athlète de haut niveau, on vous envie parfois.
Ouais, bah ouais, ouais.
Bon, vous connaissez désormais le triptyque magique d'RMC Running, un portrait de coureur, une séance d'entraînement et un bon plan matos ou dossard pour rester motivé. L'épisode de la semaine ne déroge pas à la règle, on reçoit aujourd'hui une championne, une guerrière. Elle vient d'être sacrée championne de France du 10 km, spécialiste du 10 et du semi. Fadoua Ledem sera en direct avec nous, elle est en studio avec moi, l'occasion de raconter son histoire, de vous faire bénéficier de son expérience et de ses conseils. La séance sera d'ailleurs adaptée à son profil. On en parle, c'est tendance en ce moment, mon petit Johan, la gestion d'une course de 10 km. Ah. Évidemment, il y a plein de conseils à donner. Hein. Ça paraît simple sur papier, mais c'est pas si facile que ça, un 10 km.
C'est vrai, ça fait moins peur qu'un marathon, mais malgré tout, si on veut battre son record ou faire une perf, il faut être vigilant sur pas mal de trucs. Ouais.
Qu'on soit pro ou amateur, on souffre hein, sur 10 km. De toute façon, ça c'est
sûr. Ah ben ça va vite. Hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Bon plan matos, magnifique. On vous gâte là aussi, c'est en rapport avec Fadoua, c'est sa chaussure préférée. La marque à l'honneur, c'est Puma. A gagné deux paires de Puma Fast Air. On pourra vous présenter ce modèle avec Clément Hubert, qui est responsable marketing running chez Puma France. Il nous dira tout. Je vous rappelle, si vous aimez RMC Running, vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple. Vous abonnez, évidemment, et vous laissez une bonne note à Johan. C'est tout ce qu'on veut, parce que ça
voilà.
Nous fait plaisir.
Et à ma mèche.
Voilà, la mèche légendaire. Et si vous avez des questions pour le coach Durand, vous les posez sur l'adresse suivante, podcastrmcrunning@gmail.com. C'est le 10 moyeu du. Vous connaissez évidemment la tradition. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va vous expliquer comment aller chasser un RP.
C'est parti donc pour cette course féminine avec toujours des intrépides qui partent aux avant-postes et qui quelquefois ne vont pas au bout. Là c'est Fadoua Ledem qui a pris le meilleur départ du Racing Multiathlon. C'est elle qui a pris la tête de la course et c'est elle aussi qui quelque part s'expose le plus au vent.
Mon rêve, c'est d'aller plus vite que les autres.
Elle se retourne beaucoup, Fadoua, quand même. Hein. Elle se retourne beaucoup.
Mais c'est peut-être le signe qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle ne pourra pas maintenir le tempo pour accompagner Cécile Jarousso pendant encore longtemps et que justement, elle se renseigne de l'état des forces derrière, savoir quel écart elles ont déjà creusé pour voir comment elle va pouvoir... elle est en train de réfléchir à sa stratégie. Regardez comme Fadoua reste bien au contact. Maintenant, elle se porte à sa hauteur. Elle n'est plus dans sa roue.
Mais quand tu t'es battue contre une maladie pendant 10 ans... T'es juste fatigué qu'on te répète toujours la même chose.
Elle est redoutable, Fadoua Ledem. On est passé devant depuis qu'elles sont toutes les deux. C'est la première fois qu'elle monte le bout de son nez.
Tu devrais ralentir un peu, non? Tu devrais y aller doucement.
Et Fadoua Ledem qui est lancée maintenant et qui est en train de faire la différence, semble-t-il.
J'ai pris des risques, mais aujourd'hui, je suis heureuse.
Voilà, elle a compris qu'elle allait remporter cette course, toute catégorie. Elle aura couru très très intelligemment. Fadoua Ledem du Racing Multiathlon qui aura donc eu le dernier mot.
On peut tous être déterminés dans la vie. Il faut juste avoir des objectifs et vouloir réussir.
Voilà, une histoire incroyable qu'on va vous raconter. Évidemment, je vous l'ai dit, on a une championne, une guerrière, la redoutable, c'est comme ça que l'a présenté Patrick Montel, Fadoua Ledem, qui est en direct avec nous, championne de France en titre du 10 km, son troisième titre national. Elle est en direct en studio avec moi. Ça ne nous l'a jamais fait, mais elle a pleuré sur la production sonore. Ça va, Fadoua ?
C'est vrai que la production, elle est émotion, là. D'habitude, il y a du gens du jardin, des trucs comme ça, mais là...
Ah ouais, ça va, Fadoua ?
Ouais, désolé, j'ai repensé à...
Ah, c'est moi, je m'en veux. Du coup, j'espère que tu as passé un bon moment quand même.
Bah, c'est bien. Parce...
Est-ce que ça raconte bien ton histoire en quelques secondes?
C'est ça, en fait. Désolée.
Non, mais ça va, ouais.
Oui, ça va.
Bon.
Bah, après, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, moi, je suis nature. Donc, la ouais. Course à pied, ça représente beaucoup pour moi.
Bah, c'est beau. Ouais. Écoute, c'est inspirant. Et on est content de t'avoir touché finalement, ouais. Parce qu'on va prendre le temps justement de raconter toute ton histoire. Vous vous connaissez. Johan, elle était ravie de savoir que t'étais là, mais déçue ouais. De savoir que t'étais pas en studio, mon petit gars.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Moi, j'aime beaucoup Yo-Yo.
Vous avez partagé des stages, hein, c'est comme ça que vous êtes connus. Hein,
d'ailleurs. Ah ouais, mais franchement, Johan, il est extraordinaire.
Il a toujours eu cette mèche légendaire.
Ouais, mais Johan... je suis un peu déçu, hein. Franchement, je pensais que.
Mais non, mais Fadois, ouais, on s'est rencontrés, je crois, en 2015 ou un truc comme ça sur un stage au Portugal. Et c'est ouais. Vrai que c'est quelqu'un. On n'a pas la même histoire du tout, mais c'est vrai que par moments, on a eu des moments de galère, des gros moments de doute. Et on a une certaine force, une grosse résilience à pas lâcher le morceau, à pas lâcher l'affaire. Et c'est vrai que, comme Patrick Montrel le disait, là, c'est une guerrière. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je la perçois, comme une fille qui, si elle est avec... Enfin, quand tu la vois courir, quand tu la vois sa façon de s'entraîner et de courir en compétition, ouais. Tu te dis, cette meuf, elle lâchera rien.
Exactement.
Et si les autres filles arrivent à la lâcher, c'est parce qu'elles sont vraiment plus fortes. Parce que d'un point de vue mental, elle est quand même assez extraordinaire.
Je vous invite à aller voir les finishes des courses de cette année. Hein. Finish du 10 km de Nice, finish du 10 km de Houille. Tu sentais que là, tu pouvais t'accrocher pour la suivre.
C'est ça, ça finit dans le mal.
Voilà, c'est ça, exactement. Fadois, on démarre toujours RMC Running par cette question. Elle est assez simple sur le papier, mais pas forcément facile d'y répondre systématiquement. Pourquoi tu cours, Fadois Ledem, alors ?
Mais c'est vraiment une super question. Je vais juste te rappeler un truc. En fait, je me suis blessée il y a 4 mois. Mmh. J'ai eu ma première blessure, je suis tombée, je me suis fait une grosse fracture.
Fracture de quoi ?
À la cheville, puis le tendon, le ligament pardon, qui était déchiré.
Ouais.
Et j'étais vraiment dans une phase en mode athlète. Là, je parle vraiment de la Fadois athlète. J'étais vraiment dans une phase un peu perdue, tu vois.
Ouais.
Et je me suis mis vraiment dans un nouveau mindset. Tu vois. J'ai essayé de trouver un nouvel état d'esprit, parce que j'étais vraiment paumée. Et je me suis posé cette question. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est question hyper importante, mais ouais. Que ce soit dans la vie ou en athlète, de trouver son but, en fait, tu vois. Et en fait... J'ai mis beaucoup de temps à répondre à cette question. Je me suis dit, mais Fadois, mais pourquoi tu cours ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux réponses. Tu vois, l'athlète... désolé, c'est un peu long ce que je dis, mais c'est hyper important.
Non, mais au contraire, on a le temps.
En fait, l'athlète, c'est vraiment... J'ai ressenti, tu sais, genre, le besoin primaire, tu vois. C'est vraiment quelque chose... Si je pouvais personnifier ce sport, c'est vraiment, tu sais, mon meilleur ou ma meilleure pote. Je sais que l'athlète sera toujours là pour moi, tu vois.
C'est un exutoire ?
C'est un exutoire, c'est une passion, mais... Au niveau de mes émotions, bah, tu vois, tu l'as ressenti. C'est quelque chose, je sais, qui m'appartient. Tu vois, c'est ma passion. Et c'est ultra ouf dans la vie de se dire, on a trouvé sa passion. Tu vois. Mais quand j'étais jeune, en fait, bon, on m'a toujours dit que j'étais très forte. Donc, j'étais en sport-études avec Thierry Chauffin, d'ailleurs, le coach de Megdes.
Ouais.
Et en fait, tout de suite, on m'a mis dans le haut niveau et j'ai rien compris. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a un deuxième... besoin ou un deuxième pourquoi tu cours. Je crois que c'est cette culture de la performance. Aujourd'hui, maintenant, j'ai compris le haut niveau et j'adore ça, en fait. Et je pense qu'avant, je courais que pour le loisir, que pour ce besoin, tu vois.
Okay.
Et je comprenais rien au niveau. J'étais vraiment perdue, tu vois. Et quand j'ai vraiment essayé de changer mon état d'esprit, de comprendre ce qui n'y allait pas, en fait, je me suis dit, mais en fait, avant, j'avais peur. J'avais peur de tout parce que je ne maîtrisais rien. En course à pied, j'étais pas la Fadois que j'étais dans le monde professionnel, par exemple, ou la Fadois qui a battu cette maladie, combattu cette maladie, etc. J'étais vraiment paumée parce que j'étais pas libre et indépendante. Et aujourd'hui, en fait, tout ce culte de la performance, souffrir à l'entraînement, borner, mais j'adore ça, en fait.
Ouais.
Et avant, j'en avais peur. Donc aujourd'hui, je dirais que à l'instant T, je cours pour être la meilleure. Et peut-être que dans 10 ans, je te dirais ouais, bah c'est pour le plaisir. Mais aujourd'hui, je l'assume. C'est ce caractère. Ce nouveau mindset, bah non, en fait, avant, j'avais peur de le dire. Et je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis professionnelle. Mon équipementier a renouvelé mon contrat et ça a eu un déclic pour moi. Je me suis dit, attends, je suis payée pour courir. Ça y est, c'est mon taf, en fait. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans un tout, mais vraiment une nouvelle page de ma vie où je me dis, non, ça y est, j'assume. Je veux bourriner à l'entraînement. Je veux souffrir. Non, mais clairement, je l'assume, tu vois. J'ai pas peur de le dire, mais j'adore ça, en fait.
Ouais, ouais.
Et j'adore cette pression qu'il y a en ce moment avec les minima pour les Jeux Olympiques. Mais ça m'excite, mais à un point.
Ouais.
Et voilà, je cours pour être la meilleure. Et
moi, c'est pour ça aussi que je suis très content de te recevoir. Nous, on adore recevoir des athlètes. C'est vrai que le cursus est plutôt classique habituellement. Les athlètes qu'on reçoit, c'est on est très fort en cross. Après, on est fort sur les courtes distances. Après, on est fort sur le long. On n'était pas programmé pour faire ça. Ce qui est beau avec toi, c'est que c'est entre guillemets une percée sur le tard. Donc, ça va être sympa de l'expliquer justement.
C'est une percée sur le tard. Tu as tout à fait raison.
Par quoi tu es passé et où tu en es aujourd'hui, quoi.
Mais à la base, on m'avait détecté.
Ouais, c'est ça,
jeune.
Mais c'est ça en fait.
C'est complètement.
Oui, la preuve qu'il n'y a pas un dingue, chemin pour y arriver, tu vois. Ouais, c'est ouais. Ça qui va être intéressant.
Si tu discutes avec Thierry Chauffin, mon coach. Ouais.
T'avais, les qualités de base, tu les avais. Quoi.
Je les avais. Ouais. Alors après, je vais être honnête, il ne faut pas non plus rejeter la faute sur le système. Mmh. Je pense que j'ai un parcours de vie qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'avais besoin de choses qui correspondent à la personnalité que je suis aujourd'hui. Tu vois, ouais. Cette liberté, cette indépendance. Je me suis battue auprès de mes proches pour l'avoir. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé une indépendance sportive. Et le déclic, il est là, quoi.
Et voilà. Et maintenant, tu cours seulement pour la perf et tu as la liberté de courir justement pour ça, parce que tu es soutenu et c'est ton métier, quoi, de
c'est
courir.
Exactement ça. Voilà.
Je suis là. Allez, le CV de coureur de Fadois, tout de suite.
RMC. Le CV de coureur.
Je suis toujours un peu gêné, mais je suis obligé. Tu as quel âge, Fadois?
Vraiment ?
Oui.
Oh 25 plus 10.
Comme ça, ça passe.
Oh, allez.
Tu cours depuis quand ? Depuis que t'as quel âge ?
Alors, je cours depuis minime, mais j'ai toujours fait du sport parce que j'ai été hyper active. Donc, j'ai fait du rugby, du foot, de l'équitation.
Le rugby, ça se voit pas, mais ok.
Mais t'inquiète, en muscu, ça se voit. Okay. Mais minime, voilà.
Minime, c'est quel âge, Chayodu ?
C'est 13-14.
13-14 ans, ouais.
Ça marche. Tu cours combien de fois par semaine ?
Alors... Normalement, 7 sur 7, mais là, depuis 2 mois, je suis à 6.
Ok.
Parce que je prépare un 10 km.
Un entraînement par jour ?
Non, 2.
2, donc ça fait 12 fois par semaine.
Voilà, voilà.
Ok. Tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne ?
Donc voilà. Ah, j'ai eu plusieurs méthodes.
Ouais.
Donc on va dire que.
À l'instant T.
Voilà, à l'instant T, tout de suite, là, je suis à 130, 140. Okay. Mais pour moi, honnêtement, je trouve que ce n'est pas beaucoup pour une prépa marathon. Si on se revoit, par exemple, après le marathon dans 6 mois.
Ouais.
Je t'annonce que je te dirai... D'ailleurs, ce sera hyper intéressant de se revoir après mon marathon parce que j'ai fait un marathon avec une prépa... L'autre, elle prépare des rendez-vous.
Ouais.
Alors, on se donne un rendez-vous dans 6 mois. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait une prépa avec 100 kills, tu vois. Et ouais. Là, à mon avis, il y aura le double. Donc, okay. Ce sera intéressant de voir si je suis pro-borne. Là, j'en fais vraiment pas beaucoup parce que je sais.
Attention, Maître Yodi est plutôt
Cali.
Fan de la Cali plutôt que de la Cantine.
Mais moi,
je suis pas fan, c'est que ça me correspond pas.
Voilà, ça dépend des personnes.
Ouais,
ouais c'est ça.
Ouais,
après, on a reçu Duncan Peria, on a reçu Mehdi Frère.
Non, mais je dirais plus le profil, moi, si je peux m'identifier, je dirais Johan et Shadi.
Hassan Shadi, ouais.
Voilà, okay. Les deux. Ça parce marche. Que, bon, Yo-Yo, il borne, mais il fait beaucoup de qualité. C'est...
Ah bah oui, voilà. Oui. C'est quelqu'un de qualité.
Pas oublier qu'il vient de la piste, hein. Oui. Enfin, un gros pistard.
Évidemment. Est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier ?
Le dernier, une 11.
Au semi.
Au semi, ouais.
11 au semi. La dernière course que tu as disputée, c'était quoi ?
Le 10 km. Ah non, j'ai fait la semaine dernière un 10 km mon saucisson à Cassino. Donc...
Saucisson.
Ouais, non, mais c'était parce qu'en fait, j'ai de la famille en Italie.
Ok.
Et moi, j'adore. C'était pour leur rendre l'appareil parce qu'ils me donnent accès à tout, ouais. Au stade et tout. Et du coup, j'ai couru là-bas.
Ok. La prochaine, c'est quoi ?
La prochaine, c'est ce week-end. Aussi un 10 km juste pour apprendre un peu parce que je stressais avant énormément en compète. Mmh. Et du coup, j'ai envie de faire beaucoup de compète pour essayer de gérer tout
la
ça.
La gestion de course.
Voilà.
Mettre des dossards.
Et j'ai envie de mettre beaucoup de dossards. Et donc, du coup, je cours dans le nord, là, un 10 km à Abbeville.
Abbeville, ouais, c'est
ensuite,
ça.
Ensuite, je vais faire un 5 km pour une association là, dans 2 semaines.
Ok.
La Vendée-Vienne.
Ok.
Et ensuite, je ferai Langueux. Mais là, ça sera plutôt pour.
La
bam,
perf.
Bam, bam.
Ça marche. Voilà. Ta séance d'entraînement préférée.
Ah ouais. Alors. J'adore, mais vraiment, genre les gros blocs, bam, c'est 30 x 400.
Oh là là.
Un jour, j'ai fait 40 x 400 toute seule à Font-Romeu dans la neige. Mais c'était un gros plaisir.
Oh, mais quelle horreur, ça.
Et j'adore pas, aussi, tu sais, genre 30 bornes, on te demande de faire ça en 3,40, genre boum.
Oh là là, oui, oui.
Ah, une guerrière, hein.
Ah ouais.
Mais je te jure, un jour, j'ai fait 40 x 400 toute seule à Font-Romeu.
Alors, c'est marrant, mais je te crois.
T'as besoin de nous montrer.
Ah, c'est ça. Alors, est-ce que tu as une séance que tu détestes?
Rien que d'en parler, c'est pas une séance, mais c'est tout ce qui est en rapport avec. Bon, bah, j'ai une foulée de canard, hein. Ouais. Mais c'est tout ce qui est en rapport avec la condition physique, PPG, côte, ouais. Les abdos,
technique.
Le gainage. Ouais. Franchement, j'ai horreur de ça.
Tu te forces quand même ?
Bah là, maintenant, oui. Mais par exemple, l'année dernière, à la même époque, non. Bah, au stage avec Johan l'année dernière, c'était un calvaire pour moi.
Ouais.
Et là, vraiment, non, j'en fais tous les jours.
Bon, et bah écoute, voilà, on en sait plus sur Fadois Ledem. On va prendre le temps de raconter cette histoire. Elle est en direct avec nous. Vous avez un peu cerné le personnage qui est avec nous cette semaine. Cette passion pour l'athlé, cet amour du fond. Dès que tu t'y es mis en minime, tu avais compris que tes distances à toi, c'était ça. C'était le 5000, le 10000, le semi. Ça,
alors,
ça
moi, j'avais compris, je pense. Déjà, j'ai pas de papa ou maman qui est dans la course à pied, personne.
Ouais.
Nous, c'était vraiment pro-études dans ma famille.
Ouais. Ce que tu as fait d'ailleurs, tu as
voilà,
fait longues études. Hein.
Voilà, nous, moi, dans notre famille, faire du sport à haut niveau, c'était plutôt vu comme un échec. Donc c'est pour ça que.
Ah ouais.
Ouais, voilà. Et du coup, la course à pied, c'est vraiment venu à moi comme ça. Et en fait, on a trouvé que j'avais des prédispositions à la vitesse. Alors moi, j'adorais le fond, mais on m'a dirigée vers du 800, 1500 mètres. Et moi, j'ai pas pris mon pied sur la piste. Et en réalité, vraiment, quand j'ai commencé à faire de la route, mon premier 10 km, je crois que je l'avais fait en mode un peu juste comme ça pour voir. C'était à Houille d'ailleurs.
Ouais.
J'avais couru en 34, 50, enfin vraiment sans m'entraîner. Et j'ai pris mon pied en fait. Et donc, c'est vraiment plus que le fond, je dirais vraiment le hors-stade, enfin vraiment la course sur route.
Ouais, alors, parce que j'ai pas mal bossé, on en reparlera, mais moi j'ai vu aussi que tu as eu un déclic sur la Parisienne. Ça t'a fait un truc de faire la Parisienne, de remporter cette course 100% féminine.
J'adore cette course. Ouais. Enfin, si je peux la faire même encore cette année, j'adore la Parisienne.
Ce qu'on remarque dans ton parcours, et tu nous en as parlé, tu t'es cherché pas mal de temps, tu as eu beaucoup de clubs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de coachs. On en parlait avec Johan quand je lui ai demandé un peu parce que moi je me renseigne auprès de Johan, vu qu'il vous connaît un peu tous, comment il te cernait. Il m'a dit c'est vrai que Fadoua, elle a connu plein de méthodes différentes. Parce que tu t'es cherché longtemps, en fait, c'est ça l'histoire ?
Bah, c'est exactement ça. Là où on va voir une fille, tu sais, un peu perdue et un peu perdue, on va dire le terme. Bah, moi, plutôt, je vois une fille, mais ultra déterminée par son objectif. Mmh. Parce que tu vois, j'ai 35 balais, la fille, elle est toujours là à chercher son cadre. Mmh. Et en fait, tu vois, je crois que le cadre que j'ai toujours cherché correspond un peu à la vie que j'ai eue. Tu vois, moi, je suis partie très jeune de mes parents avec ma maladie et l'envie de faire des grandes études. Donc, j'étais très vite très indépendante. À l'âge de 19 ans, il a fallu que je travaille pour aller en école de commerce, etc. Et en fait, quand je suis revenue dans le monde professionnel, en course à pied. Donc, j'avais atteint un statut au niveau pro au travail.
Ouais.
Et je me suis retrouvée, en fait, au niveau sportif, à devoir rendre des comptes, cette liberté et cette indépendance que je me suis battue pour avoir au niveau de mes proches, cette indépendance que j'ai eue au niveau professionnel, je me suis retrouvée, en fait, pas trop respectée à ce niveau-là et pas vraiment... j'étais pas vraiment libre, en fait. J'avais l'impression que je critique pas un système qui fonctionne. Hein. Je donne mon point de vue.
Non, bien sûr.
J'ai juste senti qu'on m'écoutait pas, en fait. Fadoua, tu vas faire du 5000. Fadoua, tu vas faire du 10000. Fadoua, elle a envie de faire de la route.
Ouais, voilà.
Fadoua, elle a envie de borner.
Ouais.
Et en fait, je suis tombée sur des coachs, mais super sympas. Et j'ai changé. Et il y a aussi autre chose. Et je pense que c'est hyper important. C'est aussi, je pense que, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure le pourquoi je cours, je pense que il fallait aussi que je fasse un reset de moi-même. J'ai traversé trop d'épreuves.
Ouais.
À un moment donné, tu vois. Et je pense que j'étais peut-être pas prête aussi. Donc, je peux dire qu'un système ne me convient pas, mais j'assume aussi de dire que j'étais peut-être pas prête à faire du haut niveau.
Mais parce que tu me dis que tu as eu un long cursus scolaire, donc tu as fait quoi comme études alors ?
J'ai eu un DUT, ensuite j'ai fait un master en management du sport, ensuite j'ai fait un master en e-business, ensuite j'ai fait une thèse, après j'ai eu un diplôme de coach, et là, bon, après j'arrête, je suis en train de passer un diplôme pour devenir nutritionniste diététicienne.
Ok.
Voilà.
Donc voilà, pour compléter tout cela.
Parce que du coup, j'ai créé une société où je fais du consulting en entreprise et je fais du coaching, voilà.
D'accord. Donc, pendant toute cette période, tu étais athlète amateur, entre guillemets.
Athlète amateur avec quelques pics dans le haut niveau.
Ouais,
tu vois,
c'est ça.
Parce que... Et en fait, tu sais, maintenant, j'arrive à avoir du recul. J'avais, tu sais, l'année dernière, j'ai eu un coach qui était super sympa. C'est le coach de Bastien.
Bastien Augusto ?
Ouais. Il m'a coaché quelques mois et il sentait qu'il y avait un blocage. Alors, sa méthode, elle pouvait peut-être ne pas me convenir parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait des choses. Mais le gars en lui-même, c'était un super coach. Mm. Et je le dis et je le redis, tu vois. Mais ça ne me correspondait pas. Et peut-être, je l'assume, que je n'étais pas prête, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, je l'ai dit, tu vois, une fois sur Instagram, que ma carrière, ma carrière dans le monde professionnel... m'a éduquée, moi, en fait. Je ne suis pas venue... c'est pas le monde de l'athlète qui m'a éduquée comme certains athlètes, tu vois, où ils font du haut niveau à l'âge de 15 ans. Mmh. Moi, c'est le monde professionnel qui m'a éduquée. Donc, en fait, j'ai eu une hiérarchie et des cadres. Et un coach, c'est pas mon pote, c'est pas mon meilleur ami. Pour moi, un coach, c'est une personne compétente qui doit m'aider à atteindre un objectif. Mmh. C'est pas mon agent, c'est pas mon nutritionniste. Et si j'ai un coach qui commence à me dire, Fadoua, tu manges pas ça, Fadoua, tu fais... Non, tu signes pas chez Puma, tu fais ça. Non. Moi, il faut que chaque chose soit à sa place.
Et j'ai, cadré, ouais.
Et j'ai pas envie de donner le lead de ma vie à quelqu'un.
Ah ouais, je comprends. Non, mais alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et on l'a rarement abordé. J'ai quelques invités en tête, Johan, mais le couple entraîneur-entraîné.
Non, mais c'est ça,
moi,
c'est un couple.
Pas un couple
est essentiel.
Moi. Ouais, mais moi, c'est pas un couple.
Tu sais, alors je vais te dire, l'exemple que tu me rappelles, on a eu la chance de le recevoir il y a un an et demi environ, c'est la légende Paula Radcliffe, dans un français parfait, etc. Et elle, ce qu'elle nous avait dit à l'époque, c'est que. Elle a eu ce couple entraîneur-entraîné parce qu'elle est allée chercher un coach de haut niveau qui, lui, tout de suite, a eu une vision à long terme pour elle. C'est-à-dire qu'il lui a dit « Moi, les courses juniors, que tu gagnes les courses juniors, que tu gagnes ci, que tu gagnes ça, ça ne m'intéresse pas. » Lui, il avait vu chez elle qu'elle était faite pour le long et le marathon notamment. Et il l'a aidée progressivement à venir là-dessus en adaptant la méthode à sa personnalité, à sa façon de courir, etc. Donc, c'est un accompagnement. Et c'est vrai que quand tu te sens pas complètement épanoui, j'imagine, Johan, que c'est difficile aussi de te projeter avec quelqu'un.
Ah non, enfin,
la relation avec le coach, elle est essentielle.
La relation, elle est primordiale. Ouais. Ouais. C'est une relation de confiance malgré tout. Et ouais, il faut que l'entraîneur fasse avec la personnalité de l'athlète et pas seulement avec son potentiel. Tu vois, il y a des athlètes, des mecs doués. Si tu les pousses, si tu les forces, si tu les stresses, eh ben, ils vont perdre tous leurs repères parce que eux, ils courent sur la qualité, sur il faut les laisser faire. Tu vois, faut pas essayer de leur faire le même plan d'entraînement que un mec, un charbonneur, un bûcheron avec moins de qualité et tout ça. Donc c'est sûr que l'entraîneur a un rôle important. Il doit faire en fonction de la personnalité de l'athlète, mais c'est pas évident à trouver. Et puis aussi avec l'âge, on évolue. Je pense qu'à 18 ans, comme disait Fadoua, on n'a pas les mêmes attentes qu'à 30, 35 ans. Aujourd'hui, moi, avec mon entraîneur, on a une relation hyper particulière parce qu'on fait le plan à deux. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on discute de la programmation, du plan d'entraînement. Et si je ne suis pas d'accord avec une séance, je lui dis parce que j'estime qu'à 35 ans, voilà, je ne veux pas suivre un plan écrit qui a marché pour quelqu'un, mais peut-être pas pour moi.
Mmh. Alors, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et là, je vais relever, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais moi, je trouve que c'est intéressant et je me pose, j'ai une problématique. Est-ce qu'on coach un homme comme une femme? Parce que j'ai l'impression que moi, ce que j'ai demandé, c'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression que de cette faiblesse musculaire, de cette fragilité qu'on a de la femme.
Tu veux dire qu'un coach masculin a plus d'emprise sur une athlète féminine que sur un athlète masculin?
Alors, c'est dur de dire ça.
Non, mais après, c'est un constat que tu fais.
C'est un constat que je fais. Alors, ça peut être bénéfique pour certaines ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me coachait pas comme un homme.
D'accord.
Ouais, ouais. Et je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, j'ai eu un coach une fois, un très bon coach aussi. J'étais sur un prépa marathon et j'avais un petit groupe, je m'entraînais avec eux. Et il m'a dit, Fadoua, les garçons, ils partent pour 15 fois 1000. Toi, tu pars pour 7 fois 1000. Et je lui ai dit pourquoi je fais 7 fois 1000. Je le conçois tout à fait qu'ils aient une autre allure, en fait. Mais je lui ai dit, à aucun moment, moi, il y a un entracte. Je vais pas faire 42 km, je vais m'arrêter. On fait la même distance.
Ouais.
Pourquoi tu me donnes pas 15 fois 1000?
Donc on partage le même groupe d'entraînement.
Et il m'a dit, parce que t'es une femme. Non, mais que tu me donnes pas la même allure, je le conçois tout à fait. Mais que tu me donnes pas la même quantité alors qu'on fait la même distance. Et là, je me pose cette question. Est-ce que ce n'est pas un problème générationnel? Parce que maintenant, la place de la femme dans le sport, elle est beaucoup plus importante. On comprend, etc. Mais vous avez aussi une génération de coachs qui ont du mal à passer le cap. Et moi, je vous parle...
Mais quelle est la justification au-delà du fait que tu es une femme? Parce que le volume est le même. Enfin,
c'est ça, pas, en fait. Je comprends pas.
Même si l'allure est adaptée, l'important c'est de faire le même volume.
Et ben voilà, et je l'ai eu plusieurs fois cette réflexion. Non, Fadoua.
J'ai vu un moment que tu avais bossé avec une amie de RMC Running, Christelle Donnet, tournée vers une femme, qui est adorable, qui est pédago, qui est peut-être la plus sympa de l'encadrement fédéral de l'athlète justement, et notamment des distances longues. T'as aimé justement travailler avec une femme comme Christelle ?
J'ai vraiment aimé, moi, Christelle Donnet. C'est moi qui suis allée vers elle. Mais à l'époque, j'étais partie... j'avais eu un coup de foot pour Font-Romeu, en fait.
Ah, comme il y a dû.
Voilà. Et du coup, ça ne fonctionnait pas.
Elle nous l'a dit, elle n'aime pas fonctionner à distance.
Donc voilà.
Elle a été sollicitée par Johan Koval, elle a dit...
C'est juste
distance,
ça, parce que moi, je le dis.
Mais l'approche de Christelle était différente, par exemple ?
Oui, l'approche de Christelle était différente.
Ouais.
Et je pense que Christelle, c'est quelqu'un qui aurait pu me ramener loin.
Christelle, championne d'Europe 2014. Voilà.
Parce que Christelle n'avait pas... Alors, cette pression dans la parole, elle était très pédagogue. Elle venait en plus juste de transiter en fait entre son rôle de maman et elle bossait à la Fédale à cette époque-là. Donc moi, c'était juste la distance. C'est pas possible autant de distance. Ouais, bien comme sûr. Ça. J'étais pas aussi mûre aussi, mature pardon.
Non mais c'est sûr, c'est toujours particulier. D'ailleurs, on a des exemples, hein, pas mal d'exemples de garçons qui sont coachés à distance. Je pense à Mehdi, hein. Mehdi qui est coaché à distance. D'ailleurs, Johan, il nous l'avait raconté.
Il y en a beaucoup. Ouais.
C'est vrai que c'est particulier de pas avoir un contact quotidien avec la personne qui t'entraîne, quoi. Même si tu fais un rapport ce travail et que tu montres ce que tu as fait, etc., c'est toujours délicat et assez lourd.
Bah, c'est délicat parce que l'entraîneur, des fois, il faut qu'il ressente les choses parce que nous, athlètes, on est dans notre bulle, dans notre séance, dans notre entraînement. Et peut-être qu'avoir une vision extérieure, un regard extérieur sur le placement, sur la façon dont on court, sur la façon dont on respire, sur la globalité de l'entraînement, quelquefois, ça peut éviter de faire des erreurs. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un au quotidien avec soi. Ouais. Parce que même si, comme tu le dis, on fait un rapport en disant ben voilà, j'ai fait mes 1000 en 2,45. Comment t'étais ? Est-ce que t'étais placé ? Est-ce que t'étais propre ou pas ? C'est pas du tout pareil un mec relâché qu'un mec qui l'est fait à balle, tu vois. Et quelquefois, nous, athlètes, on n'a pas le recul nécessaire pour le dire. Ouais.
Après, il y a quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai un nouveau cadre. Et en fait, j'emploie des personnes.
Ouais.
Et il y a quelque chose dans le système français, surtout, qui est différent. Et ça, c'est pas de leur faute. Les coachs, il faut savoir qu'ils sont bénévoles. Donc, font ça en plus de leur travail. Donc, forcément... là, je les défends un peu hein, parce que forcément, c'est du plus pour eux. Donc, s'ils n'ont pas un retour sur investissement, ils ne vont pas s'investir. Donc, généralement, nous, les sportifs de haut niveau, on oublie ça. On demande en fait beaucoup de choses aux coachs. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, j'ai un staff et ils sont rémunérés pour ça. Donc, en gros, tu as ton objectif, c'est tant sur marathon. Tu le réussis, ok. J'ai une relation professionnelle avec eux et ça fonctionne. Et je pense qu'en fait...
Ils sont investis de cette mission, donc ils sont 100% pour toi.
Et moi, je pense qu'il y a aussi un manque de valorisation pour les coachs parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Et en fait, c'est pas malsain, mais je veux dire, le coach, il n'est pas rémunéré. Nous, on lui demande de s'investir à un moment donné. C'est pas avec des hashtags et des merci sur Instagram qu'il va se sentir valorisé. Non,
ça,
mais
c'est humain, hein, t'as
c'est
raison.
C'est humain. Donc, le gars, il se dit, non, mais attends, je la fais progresser. Elle ne me dit même pas merci. Elle change de coach tout le temps. OK, moi, qu'est-ce que j'ai en retour ? Donc, j'arrive à me mettre à leur place. Et ce n'est pas que pour moi. C'est tous les coachs dans des clubs, dans les clubs français. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, peut-être, d'avoir un statut pour les coachs. Ils seraient peut-être beaucoup plus présents. Parce que là, pour eux, ils doivent cumuler parfois deux boulots, leur vrai boulot, plus essayer de partir en stage une fois sur deux avec leur athlète. C'est très compliqué.
Johan, tu rémunères ton coach ?
Avec des cadeaux.
Voilà, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus?
C'est des cadeaux, ouais. Il accepterait pas, mais voilà, je lui fais des cadeaux en fin d'année. Je l'équipe en ASICS, et puis après, c'est un peu vrai.
Non, mais ça nous ouvre les yeux sur l'amateurisme, entre guillemets, du traitement des athlètes de haut niveau.
Après, tu te sens un peu redevable aussi.
On se demande pourquoi on ne va pas briller au jeu.
Tu te sens un peu redevable. Tu as ton coach qui te fait un plan. Tu attends le plan, il te le donne à l'heure que tu veux. Mais tu te dis, attends, le gars, le pauvre, je ne le rémunère pas. Et tu n'es pas en soumission, je ne vais pas dire ça. Mais tu te sens un peu redevable. Tu ne le payes pas, en fait. Tu lui demandes de travailler pour toi et tu ne le payes pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, moi, bon, je rémunère comme je peux.
Bien sûr.
Pour Sapien, on n'est pas au foot.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, oui, je suis au-dessus de mon staff parce que je les rémunère. Et en fait, je pense que le problème, il est là. C'est un cadre, en fait. C'est oui, d'accord, il faut une relation de confiance avec le coach. Mais le coach, c'est un coach.
Ouais.
Le coach, c'est pas l'agent. Moi, quand je pars en stage en équipe de France...
T'as un agent, d'ailleurs ?
Oui, Benjamin Soro. J'ai une nutritionniste, j'ai un préparateur physique maintenant. Au Kenya, j'ai un lièvre.
Ouais.
Tout est carré maintenant. Donc, c'est même pas maintenant le coach qui est hyper important. Le coach, il fait pas son travail, next.
Ouais.
Je suis désolée. Hein.
Et alors, dans ta façon de compartimenter les choses, donc tout est bien réglé, tout est bien cadré désormais, est-ce que tu as ton mot à dire sur le plan d'entraînement ?
Alors, je reste l'athlète. Maintenant, je suis devenue coach. Donc déjà, quand je me suis blessée, j'ai passé beaucoup de diplômes. Maintenant, je suis devenue coach, donc je comprends mieux aussi quand on parle de seuil lactique, etc. Donc, j'arrive à comprendre. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour faire un plan de marathon.
Tu n'as pas le truc de lactate, là. Tu n'as pas acheté ça encore.
Non, pas encore, parce que je ne suis pas non plus obnubilée par toutes ces...
Tu as bien raison.
Et, mais je fais confiance, déjà. Je fais confiance parce que je me dis, c'est lui le professionnel. Mais par exemple, là, je vais donner un exemple. J'ai parlé à mon staff, à tout le monde. Je leur ai dit, voilà, je ressens le besoin de faire des compétitions parce que j'ai une routine. Ça ne va pas. J'ai senti, par exemple, que j'ai fait une perf internationale, certes, à Nice, mais j'étais encore amateur dans mon comportement. Donc, j'ai dit, c'est marrant de le dire sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas professionnel. J'ai besoin de faire des compétitions pour vite régler ce problème. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas parler
de... C'est dans l'approche de l'événement, c'est dans l'échauffement, c'est dans...
Perdre 40 secondes parce que tu n'as pas de lièvre, ce n'est plus possible.
Ouais, d'accord.
Voilà, n'importe quoi. C'est marrant de le dire 2 minutes, mais ce n'est pas professionnel. Donc, j'ai dit, j'ai besoin de faire des courses parce que, courses rémunérées ou pas, mais il me faut des courses. Il m'a dit, OK, je pense que s'il m'avait refusé ça, ça m'aurait créé un petit problème. Et là, j'ai fait part d'un besoin, en fait. Et maintenant, il a adapté le plan. Je lui fais part d'un besoin. J'ai besoin de sentir, j'ai besoin de borner pour le marathon. J'ai pas besoin de faire 210 bornes, mais j'ai besoin de borner. Borner, c'est pas 140. Si je suis à 140 en semi, je pense que je vais avoir besoin de faire 170, 180. Donc, il va adapter le plan.
Alors, ça m'intéresse. Là, on rentre vraiment dans le détail du détail. Et Johan, je vais m'adresser à toi aussi. Moi, j'entends tout ce que tu dis. Donc, toi, tu fais part de ton ressenti, etc., à ton entraîneur. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un entraîneur, Johan,
bien sûr,
que de te dire, OK, ton ressenti à toi, c'est ça. Mais moi, je te dis quand même que si tu veux progresser, il faut que tu en passes par là. Donc, c'est ce qu'on dit souvent avec Johan, parce qu'on a reçu pas mal de mecs. On a reçu Duncan qui travaille un peu seul, etc., et qui fait un peu les plans comme il veut. Et quand tu fais le plan comme tu veux,
ça marche pas.
Tu vas souvent vers les choses que tu apprécies et moins vers les choses que tu apprécies pas.
Bien sûr.
Donc, il y a aussi peut-être un équilibre à trouver. Et c'est important d'avoir un regard extérieur. Le coach, au-delà de ses compétences en termes d'athlétisme, etc., de programmation de séance et tout, il va te dire, il va détecter chez toi tes points faibles, tes points forts, il va aussi t'aider, te forcer à travailler ce que tu n'as pas envie de travailler.
Oui, bien sûr. Là, on fait beaucoup de travail en seuil lactique. Moi, je faisais beaucoup de blocs.
Ouais.
Si je pouvais faire que 20 ou 30 fois 400 toute la semaine, c'est ce que je ferais, tu vois.
Quelle horreur.
Non, mais voilà.
Ah, pas, non.
Et aujourd'hui...
C'est un vrai problème. Hein.
Et aujourd'hui, voilà, on fait des côtes parce que, voilà, c'est des choses que j'aime pas.
Ouais.
Mais je suis obligée. Et à un moment donné, il y a tes besoins, mais il faut aussi faire confiance. Moi, je pense qu'avant, je faisais pas confiance. Mais attention. Dans une programmation, dans un staff, il n'y a pas que le coach. Aujourd'hui, il y a la nutrition qui est très importante. J'ai eu des crampes à mon marathon parce que je m'alimentais mal. Donc, je pense que le staff, il faut qu'il soit aussi en osmose. Enfin, moi, on fait des réunions une fois par mois où on fait des calls et tout le monde parle. Le préparateur physique, il parle avec le coach et la nutritionniste.
Est-ce qu'ils sont terrorisés quand ils te parlent ?
Non, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, j'avais fait un post une fois où j'avais dit vraiment, ma carrière, aujourd'hui, je la gère comme une entreprise. Bah oui, mais...
Hop, toi, t'es viré.
Non, mais ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, je suis professionnelle. Et mon métier, c'est de courir. Et je gagne ma vie en courant. Donc, tout doit être quand même un minimum carré. Si on part sur une prépa marathon à 150 km, mais que la nutritionniste n'est pas vraiment informée, ou le préparateur physique me donne des charges à 150 en soulevé de terre, ce que je faisais vraiment avant, mais qui avait aucun sens, c'est pas normal.
Non, mais...
Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une corrélation.
Une logique, entre...
Voilà. Donc, et je pense que mon rôle, c'est un peu comme un chef d'entreprise, et bah, c'est de mettre en lien toutes ces personnes. C'est de faire des tableaux avec les objectifs. C'est ça. Mais chacun a son poste, tu vois, ou pas, et ses objectifs. Après, je ne peux pas non plus contredire tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien, tu travailles toute seule.
Non, puis après, il y a la question. C'était passionnant. On a un peu dévié du sujet. Mais, non, mais c'est vrai. C'est l'importance de la relation de confiance entre l'athlète et son staff. C'est vrai que c'est essentiel. Si je reprends un peu le fil de ta carrière, je voulais revenir donc à 2017 et à cette fameuse parisienne. Avant, tu faisais des courses sur piste et tu remportes cette parisienne. Et c'est ce moment révélateur où tu te dis, la route, les courses en extérieur, c'est fait pour moi.
Ouais, vraiment. Ouais. Alors, la parisienne, c'est vraiment particulier. Parce que c'est vraiment, moi j'adore cette course, c'est super bien organisé pour une belle cause, etc. Et vraiment, j'ai une foulée particulière qui m'a beaucoup complexée. Parce que j'entendais quand je courais autour de la piste, oh là là, Fadoua, elle est rasante, Fadoua, elle est là.
Tu mets des coups de pied.
Ouais, non, mais je cours vraiment, mais faut me voir. Hein. Je
crois que t'es encore. Des bras comme ça.
Ouais, un petit canard. Ah. Non, mais véridique. Hein. Et vraiment, je crois que ça m'avait créé un mini complexe sur piste, tu vois. Et puis je sais pas courir avec une paire de pointes vu que je fais d'attaque talon.
Ah ouais.
Donc, en fait, je me suis sentie libérée. Et tu sais, la première raison du pourquoi je cours.
Ouais.
Et bah, sur route, c'était les deux. J'avais la performance où bah voilà, j'avais gagné, tu vois. Et cette, cette tranquillité. Tu es avec ton chrono, tu prends la ligne de départ, tu sais, sur route, on est 4000, il peut y avoir toutes les classes sociales, toutes les religions, enfin, c'est tout ce que j'aime, moi. Vraiment, ce melting pot, j'adore ça. Puis, et ça me correspond tellement, en fait. Et la parisienne, après, s'en est découlé du kilomètre, du semi.
Parce qu'après, c'est l'année 2018 qui est assez folle pour toi.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu gagnes le 10K d'ici. Tu fais première française au semi de Paris.
C'est ça.
Là, c'est quelque chose quand même, quand t'es première française sur un semi aussi gros. C'est peut-être le plus gros semi de France, d'ailleurs.
Bah ouais, en plus, je l'avais vraiment pas prévu.
Ouais, mais non, mais là, c'est que... là, Johan, ça classe quelqu'un comme ça.
Quand c'est tu un fais... cap.
Voilà, premier tricolore sur un semi aussi réputé, c'est que ça y est, c'est un nom qui ressort, quoi.
Ouais, puis après, il y avait eu toutes les sélections, enfin, les mondiaux, tout ça. Et après, il y a eu le Covid, où moi, vraiment, ça m'a...
Ah, ça a arrêté pas mal de monde.
Moi, ça m'a arrêté psychologiquement parce qu'en fait, j'étais vraiment sur une lancée et je me suis dit, en fait, je vais avoir tout le retour sur investissement en termes de contrat. Là, on parle de contrat professionnel, hein, pas juste dotation.
Ouais.
Je me suis dit, je vais avoir vraiment un retour sur investissement parce que moi, j'avais démissionné de mon poste d'ingénieur, etc. Enfin, il n'y avait aucune entrée.
Et c'est tombé au pire moment possible. Et le résultat arrivé, le Covid.
Voilà. Et en fait, je me souviens très bien, je ne sais pas si tu te souviens, Johan, tu sais, quand ils ont annoncé le confinement, c'était pile pour la sélection pour les mondiaux.
C'était la veille du semi de Paris qui servait de support de sélection pour les mondiaux de semi-marathon.
Et juste pour info, j'avais utilisé toutes mes économies pour partir en stage en altitude au Krebs. Et j'avais enchaîné, mais genre des 6 mois, mais des trucs de dingue. Je me suis entraînée comme une folle toute seule. Et au final, je suis restée confinée. Ça m'a mis dans un...
Ah ouais, moralement, là.
Moralement, j'étais pas bien. Et vu que j'avais un chrono, certes, qui était peut-être à l'époque sans carbone, intéressant, 1h14, mais en fait, je pouvais rentrer dans aucune course. Donc en fait, j'ai fait 2 ou 3 ans, mais sans rien.
Ouais.
Donc en fait, c'est un peu un retour, là.
Ouais. Ouais, peut-être que tu t'es régénéré et bam, c'est pour ça que
Je pense aussi.
Année,
je pense aussi, t'as raison.
C'est possible. non, mais Johan, c'est vrai, cette période Covid pour les athlètes comme ça, c'est vrai que on n'est pas chez les footballeurs, comme tu le disais tout à l'heure, Padoua. Financièrement, il y a eu des sacrifices qui ont été effectués par de nombreux athlètes. Ouais.
Ah, c'était pas simple. Et puis, on n'avait pas de recul sur les compétitions qui allaient venir. C'est un peu la même histoire parce que je revenais d'une opération au tendon d'Achille. Je commençais à revenir en 2019. Je commençais fin 2019, début 2020 à bien revenir. Et puis, tu repères 6 mois. Derrière, en plus, le temps que tout se remette en place, moi, je m'étais reblessé. Donc, les sponsors, enfin, c'était une période un peu délicate, un peu compliquée, même après les compétitions. Hein. Faut se rappeler, les courses, moi j'ai eu fait des compétitions où on était 20 au départ. Il n'y avait plus, comme le disait Fadoua, ce côté populaire de la course sur route. Il y avait juste les élites qui avaient le droit de courir. Enfin, c'était particulier, ouais.
Mais élite, hein.
Ouais.
C'est vraiment.
Ouais,
C'est ça, ouais. Il n'y avait que les personnes listées au niveau qui pouvaient courir.
Mais toi, tu avais un statut quand même. Tu avais plusieurs titres de championne de France.
Oui, j'étais listée, mais tu sais, le listé tout petit, là. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Où il y a un astérisque. Toi, c'est pas possible.
Si j'étais listée, donc ça allait. Mais je parle je me souviens que cette époque, j'étais chez un autre équipementier et je devais lancer mon marathon. Je devais faire Valence. Et il n'a pas voulu que je rentre. Parce que 1h14, c'était pas suffisant et il avait refusé de me donner un dossard.
D'accord. Parce que c'est vrai que en bossant ton profil, je vois beaucoup de perfs sur 10 sur semi. On va parler de ton année dans un instant, mais toi, ton objectif pour 2024, c'est le marathon.
Alors, il y a 2024, certes, c'est vraiment hyper important et c'est la grosse tendance. Mais bon, il y a Los Angeles et moi j'ai pas de limite, hein. même si j'ai 25+10, j'ai pas.
C'est Fadoua Button, c'est pas Benjamin Button, c'est Fadoua Button.
Donc, oui, c'est important de le parler, je le sais, etc. Paris 2024, c'est très important, mais il y a l'avenir. Et la suite, ce sera sûr sur marathon. Ça, c'est sûr, parce que
parce qu'on te sent très performante sur semi, mais c'est pas une distance olympique.
Non, mais en dehors de la distance olympique, j'aime le marathon, même si ça s'est pas très bien passé.
T'en as fait combien des marathons?
Un seul.
Ok, c'est mal passé.
Oh oui.
Ouais. Les crampes. Et voilà.
Non, mais c'est vraiment. Tu sais, on parle du mur. Ouais, le mur. Mais moi, c'est pas un mur que j'ai eu. Enfin,
T'as eu l'immeuble.
J'ai eu un bâtiment, quoi. Tu sais, franchement. Mais le marathon, c'est génial. Franchement, si tu peux. Je sais pas si t'as déjà fait un marathon.
Quelques-uns.
Héloïse Non. Mais franchement, c'est la meilleure des disciplines. Et je pense que t'as besoin quand même. Enfin, je sais pas, Johan, tu me diras.
T'as déjà fait un marathon, toi, Johan?
Ouais.
Mais t'as besoin quand même de faire du 10 km et du semi, ne serait-ce que pour... Regarde là, 2h26.50 les minima pour les Jeux Olympiques. Ah. Allez, hop. Mais ça suffit pas 1h11. Il faut se rapprocher au moins du petit 1h10, faire... si tu veux. Ouais. Si tu veux, tu vois ou pas ?
Bah oui, pour le gap, bien sûr.
Voilà. Donc, pour pouvoir se rapprocher du 1h10, il faut quand même être capable de courir en 32 minutes. Hein.
Ouais. Le 10.
Le 10.
Ah non, il donc, faut courir vite sur 10, sur semi, ça fait peur, hein. Pour courir
c'est
vite
ça.
Sur marathon.
Voilà, exactement. C'est mathématique. Hein.
Mais je reprends l'objectif de ta saison, l'objectif concret. Tu vas te laisser une chance sur marathon d'ici la fin d'année pour aller
ah oui, bien sûr.
Tu vas aller où
bah alors, ça, en fait, il y a deux plans. Il y a le plan où la Fédé me sélectionne pour les championnats du monde de semi-marathon.
Ce qui est prévu d'ailleurs. À Riga, j'ai vu ça.
Mais en fait, je suis pas. J'ai fait les minima, mais je suis pas sélectionnée.
Quelle histoire, j'ai l'impression d'entendre mes 10 frères.
Non, en fait, non, non. Alors là, sur le coup, j'ai le 5e temps, 5 ou 6e temps. Donc ils peuvent ne pas me sélectionner.
D'accord.
Par contre, moi, je me dis, j'ai fait les minima. Donc déjà, je suis.
Mais quel intérêt d'aller au monde de semi-marathon si ton père c'est Paris?
Pourquoi ? Donc, nous, chez les femmes, il n'y en a qu'une qui a fait les minima. Et à mon avis...
On parle du marathon, là ?
Ouais.
Ouais, Megdes.
Voilà. Et à mon avis, les deux autres places, je pense, ça va jouer au ranking.
Ah oui. Oui, parce que les minima ne seront pas atteints. C'est ce que tu te dis.
Alors, je vais courir pour courir en 2h26.50. Ouais. Mais ouais. Attention, c'est un marathon. Déjà, si le prochain, je suis en moins de 2h30, c'est énorme.
Ouais.
Donc, tu vois, donc je vais m'entraîner pour, mais à un moment donné, il faut aussi être rationnel, tu vois.
Ouais, je comprends.
Là, le 1h11, il me rapproche du 2h28, mais 2h28, c'est pas 2h26.
Ah tu bah, vois. C'est sûr.
Donc, voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant les mondiaux ? Parce que ça va donner des points pour le ranking. Là, malheureusement, Johan, bon, je pense que chez les hommes, il n'y aura pas de ranking, ça va être au chrono. Ouais. Et nous, chez les femmes, à mon avis, les deux places, ça va être au ranking, mais Valence en soi. Peu importe que tu fasses Berlin en tentative de moins de 2h30 et après Valence en tentative minima, il y aura tout le monde à Valence.
Ah ouais.
Donc moi, dans ma tête, Valence, c'est... Je suis trop excitée d'arriver d'en parler. Là,
c'est bien noté.
Ouais, ouais, c'est
3
sûr.
Décembre, hein, c'est ça ?
Ouais. Ça va être magnifique. Hein.
Ah ouais, ouais. Sublime. Incroyable. Mais c'est la beauté aussi de ce week-end-là. Parce que nous, on essaiera de la raconter dans RMC Running. C'est que ça sera du one-shot. Quoi. Ça sera...
Ah, mais à mon avis, ça va être... Parce qu'après, franchement, après, il y a Tokyo.
Il y a plus grand chose.
Après, il y a Tokyo, non. Donc en fait... La sélection, tu la connais le 20, ouais. Le 3.
Tu veux nous parler de ton année quand même, cette belle année, notamment à Nice, notamment à Houille. Donc, tu as remporté le 10K de Nice, tu as remporté le 10K des championnats de France à Houille.
Ouais.
Et donc, le semi aussi de Nice, c'est là où tu as fait 1h11. Ton début de saison, il est fantastique. Quand même.
Il est fantastique, surtout après 4 mois de blessure et en gros 5-6 semaines d'entraînement. Et je pense que ces chronos, pour le moment, sans prétention, mais ils reflètent tout simplement le déblocage que j'ai eu mentalement. Il est pas c'est pas le reflet de l'entraînement parce que il faut être rationnel. Un entraînement, tu as l'usufruit au bout de 6 mois, 1 an. Donc je pense que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on va vraiment voir mon potentiel parce que j'ai jamais eu de régularité à l'entraînement. C'est ça mon problème. Et vu que j'avais cette peur en moi, il faut utiliser le terme, j'avais vraiment peur. Et là, j'ai eu vraiment ce déblocage après la blessure en fait, où vraiment j'ai eu ce nouveau mindset, tu vois, où j'ai cet état d'esprit vraiment de rebelle, tout ça, où j'assume vraiment. Et je pense que tout simplement, cette victoire, c'est tout simplement mes qualités et le déblocage mental. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la suite avec un entraînement régulier parce que je n'ai jamais fait.
On a entendu aussi, on a perçu des problèmes de santé, une maladie qui a traîné. Les problèmes de santé sont terminés aujourd'hui ?
Les problèmes de santé sont terminés enfin. Donc, ça a duré à peu près 10 ans.
Ouais.
Ça a été très difficile à gérer émotionnellement, personnellement, parce que en fait, je suis partie très tôt de chez mes parents et j'ai eu à gérer ça toute seule, entre guillemets, tu vois. Et ensuite, j'ai eu à gérer ça, plus mes études. Enfin, bon, j'ai pas... c'est pas l'histoire de Cosette, mais bon, voilà,
non,
tu vois.
Non, mais faut le dire.
Et on va dire qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai l'impression que je vis, tu vois.
Tu renais.
Ouais, je te jure, un phénix.
C'est devenu une force. Une faiblesse est devenue une force.
En fait, c'est exactement ça, tu sais. Avant, j'avais dit, ouais, je transforme mes faiblesses en force. Et c'est exactement ça, je pense qu'en fait, avant mon histoire, ma maladie, mes soucis de santé, perso, tu vois, c'était une remorque, tu vois. Et je ne comprenais pas que ça pouvait être ma valeur ajoutée. Ouais. Tu vois, tu as des athlètes comme Anaïs Kemener qui ont eu quasiment les mêmes soucis et qui, elles... arrive à en parler, etc. Fort. Bon, bah moi, pendant très longtemps, ça a été un boulet, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu autant de maladies. J'ai perdu mon temps, etc. Et aujourd'hui, ça y est, en fait. Je me dis, non, mais t'es une guerrière, ma grande. franchement, t'as changé, je sais pas combien de fois de coach.
Tu sais,
et t'es toujours là, quoi.
Je te l'ai dit au début, mais ouais. Nous, on bosse pas mal les épisodes en amont. Et c'est une info que personne n'a, en fait, ta maladie. Personne le sait, en fait.
Ouais, parce que ouais, j'ai pas envie d'en parler.
Il y a une certaine pudeur, mais oui, il faut vraiment investiguer pour se rendre compte et apprendre ça. Donc voilà, évidemment, c'est pas un sujet que t'as envie de traiter de plus dans la longueur, on le comprend, mais c'est la preuve aussi de la gestion différente. C'est vrai qu'Anaïs, elle le revendique, par exemple. Anaïs, elle est perçue comme ça. Octobre Rose, c'est quelque chose de fort pour elle, etc. Mais c'est deux façons différentes de voir les choses. Mais c'est vrai que ça peut t'aider aujourd'hui, ça peut te faire une force supplémentaire dans ton caractère, en tout cas.
Bah déjà, j'ai l'impression qu'il y a sur plusieurs points de ma vie, j'assume beaucoup de choses, tu vois. Que ce soit, rien à voir, mais mes origines, tu vois. Mon passé, la maladie, je crois que je sais pas si c'est la trentaine, mais j'ai l'impression qu'en fait j'assume mon chemin de vie là.
Ouais, t'as mûri.
J'ai mûri en fait, ouais. Et je pense que, tu sais, vu que la course à pied ça a vraiment émotionnellement une place très importante, je pense que je pouvais pas être une championne si j'avais pas accepté tout ça,
sûr.
Tu vois,
bien sûr.
Et aujourd'hui, je suis en paix, en fait. Ouais. Et du coup, j'accepte ce train de vie-là.
Et on vous le dit, elle va tout casser. Méfiez-vous.
Ça j'espère.
Les problèmes sont réglés.
J'espère.
Voilà, c'est ça. Tiens, on voulait te faire une surprise, parce qu'on aime bien faire ça dans les RMC Running. On t'a laissé, on a demandé à quelqu'un que tu connais bien de te laisser un petit message. Une personne que tu as devancée au championnat de France à Houille, une personne qui partage le même équipementier, c'est Emeline Delany.
Ah, qu'on avait reçu c'est pas vrai. L'année.
Elle t'a laissé un message.
Coucou Fadou, j'espère que tu vas bien. Juste pour te laisser un petit message, je sais qu'on a l'habitude de parler en audio, en très long audio même, mais juste te laisser un petit message pour te dire que t'es une personne vraiment formidable, motivante. Moi j'adore m'entraîner avec toi et j'ai déjà hâte de la suite. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison, pour tes courses qui arrivent et je te fais des gros bisous et à bientôt.
Elle est sympa, Emeline.
Ouais, c'est super sympa. Mais franchement, après, on était encore
en audio.
Hier. Donc, je ne savais pas du tout. Franchement, c'est super sympa. Ça me touche énormément.
Non, écoute, c'est comme ça. Nous, on l'avait beaucoup apprécié son parcours. Tu te rappelles, Johan, le cursus universitaire américain, etc.
Ouais, les gars, il va falloir faire attention à elle.
Ah ouais, bien sûr. Mais on le sait. Hein, on le sait.
Tu sais que là, c'est grâce à l'athlète et à mon équipementier Puma que, du coup, on est rentré en. On habite à côté aussi, tu vois. Et c'est ça aussi, l'athlète. C'est trop cool. Je pense que. Mais c'est les rencontres. Et après, moi, j'ai un gros respect pour mes concurrentes. Parce que je me dis, tu vois, c'est elles qui elles peuvent me comprendre. Et il y a aussi Méline. Je m'entends très, très
Méline
bien
Rollin.
Avec elle. Méline Rollin.
Madame Gâteau.
Madame Gâteau.
Méline Cuisine.
Voilà, moi, je pense que tu vois, partir en stage avec Méline, Emeline, c'est tout à fait possible.
Alors, tu peux nous aider ? On cherche dans la bande d'athlètes de haut niveau français quelqu'un qui n'aime pas Durand et on ne trouve pas. Tu peux
mais
nous aider ?
Personne. Mais non, mais regarde ce que je t'ai dit quand je t'ai dit, franchement, c'est la meilleure des personnes pour les podcasts.
C'est vrai, je ne voulais pas répéter, je ne voulais pas qu'ils prennent la grosse tête. Et la conclusion que je tire de tout ce qu'on vient de dire, c'est que j'espère que je n'aurai pas à payer Durand. Je ne sais pas comment je vais le payer. Moi, c'est mon entraîneur.
Ah ouais, c'est ça. J'attends la perf. On verra si ça perf ou pas.
Ouais, c'est ça.
Ça se trouve, je vais prendre un coup de pied.
Et moi, j'ai un caractère à la LEDEM. Hein. Si ça marche pas, je te dégage. Hein.
Mais je réalise que j'ai dit ça tout à l'heure. Next. Je me suis dit, mais c'est pas possible.
Alors, l'image que j'avais, le prend pas mal. Hein. Mais j'avais Donald Trump dans sa télé-réalité qui disait, tu es viré. Comme ça, c'est le conseil d'administration. Toi, tu dégages. Terminé.
Non, là, je suis horrible.
Non, mais écoute, magnifique histoire qu'on a racontée. Et maintenant, on bénéficie de tes conseils d'entraînement. C'est la séance tout de suite.
RMC, la séance.
Et oui, nous, c'est une distance dont on parle beaucoup en ce moment dans RMC Running. Sache qu'on encadre des gens, voilà, des athlètes amateurs qui veulent se lancer sur le 10K de Paris. Ça approche d'ailleurs, on est à quelques jours de l'événement. On a encadré Christelle et Christophe que l'on embrasse. Ils ont eu un plan d'entraînement. Ils ont été habillés également par la marque partenaire. Et eux aussi ont l'envie de cet objectif. On a donné des conseils d'entraînement. Parlons de la gestion de course, c'est important. Johan, ces circonstances, c'est moins complexe qu'un marathon à gérer. Il n'y a pas les problèmes de ravitaillement, pas tous ces soucis-là, mais il y a aussi des erreurs qui ne pardonnent pas sur 10 km. Johan, par exemple, partir trop vite ou pas assez vite, c'est rédhibitoire sur un 10K lorsqu'on vise un record personnel. Hein.
Bah ouais, complètement, ouais. La première chose à bien faire, c'est quand même bien s'échauffer pour un 10K. Je trouve que autant sur un marathon, tu vas courir 10-15 minutes, après tu es dans ton sas et puis tu te sers des premiers kilos sur le marathon pour terminer un peu ton échauffement et monter tranquillement en température. Là, sur un 10K, l'effort, il est quand même il est hyper brutal. Hein, ça part, on a tous des images de 10 km où ça bouscule, où ça part vite, enfin... faut quand même être bien échauffé.
Il n'y a pas toujours un platane comme Aouille, tu vois.
Ouais, voilà. Bah, Aouille, voilà, ça c'est le. C'est la qualité de Aouille, c'est qu'ils ont mis un arbre et des trottoirs, et comme ça, c'est un peu.
Ils voulaient crémer un peu dès le début, voilà, ça, ouais, ça a marché, ça. Voilà, bravo.
Non, mais pour éviter quand même ce risque de blessure et pour être vraiment le cardio, être vraiment préparé, je trouve que l'échauffement, c'est quand même hyper important. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, c'est, pour moi, ce qui est primordial, c'est de partir sur ses allures.
C'est la course qui demande le plus de respect d'allure possible, j'ai l'impression. Parce que marathon, tu peux partir un peu en dedans, profiter des premiers kilomètres en guise d'échauffement, quoi. Le semi aussi, tu peux rattraper du temps. Le 10, c'est vraiment très dur, en fait, tu vois.
Le 10, tu as du mal à trop faire. Hein. Le problème, c'est que si au bout de deux bornes, tu es en hyperventilation et que ta respiration elle commence déjà à être saccadée, tes limites point de côté et t'es cuit, eh ben, ça va être très compliqué d'aller chercher un chrono réaliste. Donc, il faut partir sur les allures qu'on s'est fixées, son objectif. Il faut que ça soit des allures qui sont réalistes, hein, par rapport à son entraînement. Mais bien se gérer comme ça, du 0 au 5. La première partie, elle doit être quand même assez métronome, assez régulière, ne pas se laisser emporter un peu par ce départ rapide. Et pour moi, le moment clé du 10 kills, autant le marathon, c'est à partir du 28-30, autant sur le 10 kills, c'est à partir du 6. Pour moi, du 6 au 9, c'est là où tout se joue, en fait.
Ah, t'as envie que ça s'arrête, hein, à ce moment-là.
Ben, c'est là où, justement, ouais, il faut vraiment se concentrer, se motiver. C'est là où c'est dur et c'est là où il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que c'est là où vous pouvez vraiment perdre du temps. Vous avez votre temps de passage au 5, suivant votre chrono, vous avez tendance à ralentir ou pas. Et c'est là où les jambes commencent à brûler, le rythme il commence à être saccadé, on commence à plus pouvoir parler. Et puis voilà, on sait qu'il reste un petit quart d'heure d'effort, donc c'est pas simple. Mais là, je vous promets que si tu arrives à verrouiller dans la tête du 6 au 9, si tu arrives à rester fort, après c'est gagné, parce qu'au 9, de 9-10, après tu finis comme tu peux, le plus dur est derrière toi. Mais c'est vraiment essayer de quand je prends le départ, je me dis ma course elle démarre au 6 et je verrouille là du 6 au 9, je suis dans ma bulle et je me concentre, ma respiration, ma vitesse, et c'est important. Ouais.
Donc être relativement frais jusqu'au 5, en fait, c'est ça
c'est
l'idée.
Ça. Ouais, l'idée, c'est d'être frais jusqu'au 5, de ne pas se laisser partir par un effort trop brutal sur les premiers kilos. Après, chaque 10 km est différent suivant le profil. Tu vois, il y a des profils où il va y avoir une montée, je ne sais pas, par exemple, pour revenir à Houille, on a une montée au bout de 1 km. Là, tu sais que voilà, elle peut faire mal. Donc, c'est vraiment aussi adapté en fonction du profil de la course. Mais pour moi, dans la tête, rester focus, c'est du 6 au 9 que tout se joue, et c'est là où on peut perdre du temps ou en gagner. Ouais.
Tu me parlais d'importance d'échauffement. On s'échauffe comment le matin d'un 10 alors ?
De façon comme avant une séance d'entraînement, hein, c'est toujours 15-20 minutes de mise en route avec beaucoup de gamme, par contre, à l'inverse du marathon où on va devoir attendre dans un sas et où on n'est pas obligé de faire monter le cardio très haut. Là, c'est beaucoup de gamme, beaucoup d'accélération assez dynamique pour vraiment commencer à se chauffer, à mettre la machine en température, en gros, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est 20 minutes de warm-up et puis des gammes, des lignes déroulées assez rapides. Et puis après, vous vous mettez sur la ligne de départ et puis focus sur l'objectif.
Les lignes droites, on en parle souvent, mais c'est allure 10K quand tu fais une ligne droite, par exemple, si
tu
en fais 5.
Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais 3 allures 10K et 2 allures rapides pour vraiment pouf. Tu vois, mettre. Et même des fois, dans ma ligne, je mets un petit coup de gouache sur 10 mètres pour vraiment voir si les muscles répondent bien. Et puis, ça, c'est le sportif, mais tu veux te rassurer. Donc, sur les lignes, tu es tout le temps en train d'en mettre pour voir si ça répond bien. Et tu te tapes dans les cuisses et tu dis, allez, c'est bien mes cocottes, ça a bien réagi. Ouais. Alors que ça se trouve, vous allez être planté au 6e. Mais bon, c'est vrai que ces lignes droites, elles vous permettent aussi, dans la tête, déjà de vous mettre en préparation. Ouais.
Fadoua, tu as des conseils pour la gestion d'une course de 10 km?
Alors, déjà, je suis d'accord avec ce qu'il dit.
Ouais, heureusement.
L'échauffement, moi, j'aime bien faire un petit, le petit kilomètre allure course.
Ah ouais ?
Ouais.
Kilo allure 10K.
Ouais, ouais.
Ok.
Donc, non, 3 minutes, allez. C'est ce que j'avais fait à Houille juste avant la course. Il a raison en termes de profil de course. Admettons, là, par exemple, tu pars sur un 10 km à Nice. Moi, je partirais un peu rapidement. Moi, je pense que.
Sur la promenade, c'était ça.
Ouais, voilà. Ça dépend vraiment.
C'est un aller-retour, ouais.
Voilà, donc c'est un aller-retour. Là, c'est vraiment un dénivelé quasiment zéro.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'il a raison dans le sens où vraiment le 10 km, ça se joue vraiment à partir du 6-7e km. Tu pars trop vite, c'est fini.
Tu le payes, c'est cuit. Ouais. C'est,
voilà. Mais là, à Langueux, le parcours, il n'est pas si simple que ça. Je crois, c'est ça, Johan, oui. Il y a un bon
nid. Il y a une côte, ouais.
Voilà, il y a une bonne côte. Mais cette course-là, il va y avoir un fort plateau. Donc, je sais que je vais partir vite. Parce que si je ne pars pas vite, je vais louper. Là,
tu ne rattrapes pas quelqu'un.
Le bon wagon, c'est ça.
Le bon wagon.
Après, il y a une histoire de groupe, ouais.
Donc, je ne partirai pas en 3 minutes. Mais je ne vais pas m'inquiéter si je pars en 3.05, 3.10. Tu vois.
Donc, avec ta course en canard, tu ne peux plus mettre de coup de coude si tu n'es pas en contact.
Non, je ne peux plus. C'est très compliqué. Voilà. Donc je suis d'accord pour la gestion de course avec lui. Mais moi, je rajouterais juste en fait, l'échauffement, le petit kilomètre ou le 3 minutes en allure course pour vraiment...
faire monter, ouais.
Voilà. Okay. Mais pour bien gérer la gestion de course, c'est aussi les entraînements à J-4, J-5. Tu sais, avant, j'avais un gros problème quand j'étais très focus sur la qualité. Vraiment, par exemple, je te faisais 10 fois 400, j'étais capable de te les faire en moins d'une 10, juste pour me rassurer. Et je pense que vraiment, les séances en mode métronome, allure course, tu sais, la fameuse, je ne sais pas si tu vas lui donner ça, Johan, mais tu sais, le 8 fois 500 récup 30 secondes à 10 jours. Moi,
je ne veux pas ça, moi.
Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, tu apprends à courir à tes allures. Donc, la gestion de course...
Tu t'imprègnes de l'allure que tu vas adopter le jour J.
La gestion de course, oui. Mais d'un autre côté, si tu as fait 10 semaines où tu t'es imprégné de ces allures, ça va être facile en fait. Mais si tu nous fais des
ton
séances...
Corps a retenu,
voilà, ça va être automatique. Mais moi, j'avais un problème avant. J'étais capable de te faire des allures 15, des allures 5000 et des allures 10000. Ouais. Ta gestion de course, elle est foutue.
Bah ouais.
Donc, ta gestion de course, pardon, en amont, tu l'as travaillé. Il faut juste accepter de courir à tes allures de course. Et je ne sais pas si tu es d'accord, Johan, mais moi, je pense que vraiment diminuer la récupération à l'entraînement, vraiment passer sur des récups 30-40 secondes, là, c'est génial. Et tu vas vraiment être imprégné. Voilà, le 8 x 500 récup 30 secondes, tu te les tournes, par exemple, en 1.40, tu vois, ton 500 mètres, si tu veux partir sur 3.20, tu vas arriver, ok, tu vas faire ton premier 1000 en 3.15, mais ça va venir tout seul. Tu sais, même si tu es tout seul, tu sais que tu vas courir en 3.20 parce que tu es habitué. Et à mon avis, il faut, dans la prépa, mettre une à deux séances allure course. Pas plus vite, pas moins vite, allure course.
Ouais, c'est intéressant tout ça, Yodu. Hein.
Non, bah, c'est ça, hein, c'est l'allure cible, hein, mais c'est pareil sur un peu toutes les distances. C'est vrai que le corps a une mémoire et c'est important de les travailler, hein, pour bien mémoriser ces allures-là. Et après, comme elle le dit, c'est vrai que les récups courtes, les récups pincées, les Kenyans sont très forts là-dessus, hein, c'est eux les premiers à faire ça. C'est quand même intéressant dans une prépa de faire ça pour préparer un 10 kilos. Ouais.
Est-ce que tu fais partie de l'école Durand, c'est-à-dire que tu te forces à faire des fractionnés d'entraînement sans carbone pour garder l'effet carbone le jour de course?
Oui. Ouais. Alors, il y a deux méthodes, je pense. Johan, tu me dis, c'est lui le coach. Alors, il y a la méthode, je pense que Nicolas Navarro fait ça, c'est que tu fais une prépa carbone. Ouais. Tu te dis, bah voilà, je vais limiter les risques de blessures, etc.
Oui. Mais voilà. C'est quand tu as des gros volumes, ça.
Quand tu as des gros volumes.
Quand tu as des gros volumes,
voilà.
Ouais.
Et puis, tu as ceux, et pour le moment, je suis comme ça, où vraiment, j'utilise la carbone une fois par semaine. Et je vais faire, là, ce matin, j'ai fait une sortie de 20 bornes à 15. J'étais avec la Deviate. Pas la Deviate. Bon, il y a un peu de carbone. Mais je peux mettre, par exemple, une Forever. Là, c'est la dernière, etc. Tu vois. Mais je limite vraiment le port de la carbone et je sens que j'ai vraiment les effets le jour de la course, moi.
Ouais.
Ouais.
Donc, même conseil.
Mais même conseil.
Utilisation minimale.
Ah ouais.
Du carbone.
Tu fais ça, toi, Yvan?
Ah oui, bien sûr.
T'as vu, je copie sur les meilleurs. Allez, hop.
C'est ce qu'il fait, lui, court en Caterpillar, les séances de 200, de 400.
Non, en Ranger, j'ai été militaire, j'ai des Rangers.
Oh, t'imagines le dingo. Non, mais voilà, bon conseil. Et je vois que tu appliques les mêmes méthodes, ça me rassure. Au moins, il ne me fait pas souffrir pour rien. Merci. Allez, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et on vous l'a dit, on vous parle d'une marque historique, le sponsor donc de Fadual Edem, une marque allemande reconnue dans le milieu du running et de l'athlète en général. On en parle avec Clément Hubert, responsable marketing running de Puma. Salut Clément, ça va?
Salut Benoît, ça va et toi?
Bon, Clément, tu t'es régalé parce que tu es là depuis le début. Hein, donc tu as pu entendre ton athlète, voilà, son histoire, les séances d'entraînement. T'as passé un bon moment?
Super moment. Salut Fadoua, j'ai c'est bu bon. Tes paroles.
Parfait. Et ça, c'est une belle égérie de ta marque Puma, évidemment, une marque reconnue dans le monde du running et reconnue dans le monde de l'athlé. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand je pense Puma, je pense tout de suite à un certain Usain. Forcément, c'est la star qui vient en tête. Clément, j'imagine qu'on te le dit souvent, mais c'est Usain Bolt, quoi. Tout le monde pense à Usain Bolt quand on pense à Puma, non?
Effectivement, on me le dit souvent, ouais. Bon, maintenant, Usain, il est à la retraite, il fait de la représentation. Il est toujours chez Puma, d'ailleurs, il a un contrat à vie.
Ok.
Il fait essentiellement de la représentation. Après, maintenant, on a plus tendance, notamment dans mon job au quotidien, j'ai plus tendance à me focusser sur les athlètes actuels, dont Fadoua.
C'est sûr, évidemment, parce qu'en plus, là, on parle de distances différentes. Là, on est vraiment dans du running. Mmh. C'est quoi, justement, la philosophie de Puma? Parce que vous êtes vraiment investi là-dedans. Vous êtes beaucoup dans la performance, les matériaux de qualité, les chaussures de qualité. Quel est votre positionnement et votre philosophie chez Puma, alors, au niveau du running?
Alors, pour le positionnement, on a lancé une nouvelle gamme en mars 2021 qui s'appelle la gamme Nitro. Nitro, comme le nom de la technologie de mousse, hein, chaque marque a sa technologie de mousse et chez Puma, ça s'appelle Nitro. Mm-hmm. On a relancé cette gamme en mars 2021 et là, l'objectif, c'est d'être à moyen terme dans le top 5 des marques de running en France et à l'international. Il faut savoir que quand même, le running, c'est un marché très, très concurrentiel. De tête, je citerai 11-12 marques importantes qui sont tous des challengers sur ce marché-là. Donc, c'est très compétitif. Et là, l'objectif, c'est d'être à moyen terme dans le top 5 avec vraiment une gamme qui puisse répondre à plein de besoins du conso, de la personne qui va chercher le prix à l'athlète qui va chercher la performance, comme Fadoua, par exemple.
Qu'est-ce qui fait qu'on doit choisir une Puma plutôt qu'une autre, alors?
Alors, je pense que globalement, pour un coureur ou une coureuse, l'important, c'est de se sentir bien dans sa chaussure. Donc là, j'inviterais tous les coureurs et coureuses à essayer les chaussures, que ce soit Puma ou une autre marque, mais vraiment essayer et trouver chaussure à son pied. Après, ce sera le ressenti qu'on aura dans cette chaussure. Je pense que vraiment, en toute objectivité, chez Puma, on fait des bons produits. On ne vient pas spontanément, en tant que coureuse ou coureur, nous chercher. Néanmoins, une fois que la personne a mis son pied dans la chaussure, on arrive souvent à les convaincre. Donc là, j'inviterais vraiment les gens à essayer des Pumas et à tenter de courir avec. Et vous verrez que les chaussures sont bien. Tu le disais tout à l'heure, Benoît, en intro que tu as essayé la Deviate 2,
ouais,
que tu as trouvé vraiment bien.
Ah oui.
Y a Fadoua qui fait des perfs incroyables en faster. Du coup, ça prouve aussi qu'on a des bonnes chaussures, on a d'autres athlètes qui font plein de perfs, on a beaucoup de coureurs, de plus en plus de coureurs qui s'entraînent ou sont sur la ligne de départ en Puma. Donc vraiment là, on est très content du rythme qu'on a.
C'est l'enjeu pour vous aussi, comme pour toutes les marques, c'est le rapport que vous avez aussi avec les athlètes de haut niveau qui représentent vos chaussures.
Oui. Vous
êtes à l'écoute, par exemple, d'une personne comme Fadoua, des retours qu'elle peut vous faire sur un proto, de ce genre de choses. Fadoua pourra nous donner son expérience dans un instant, mais vous, ouais, vous appuyez beaucoup sur le ressenti des athlètes de haut niveau?
Oui, effectivement. On s'appuie beaucoup, on prend toujours le retour en fait, des athlètes de haut niveau. Effectivement, ça peut être intéressant pour développer les chaussures les meilleures possibles. Néanmoins, je vais quand même mettre un bémol là-dessus.
Et c'est oui, que tu ne t'adresses pas qu'à des pros, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Et en fait, souvent, les athlètes sont un peu dans leur bulle, ont un peu leur vision qui ne correspond pas tout à fait en fait au marché de masse. C'est pour ça que je pense dans une gamme, il faut avoir à la fois des chaussures qui sont tirées vers la perf, où là, c'est très intéressant d'avoir le retour des athlètes, mais après aussi d'avoir des chaussures qui conviennent plus grand nombre, et là, d'avoir des retours plutôt consommateurs. Et par exemple, pour ça, quand on avait lancé la première Deviate, la version 1,
ouais,
on avait fait une tournée de testing en fait, dans toute la France. On était parti dans 10 villes, on avait fait tester par 900 runners et runneuses, et on avait demandé en fait, un taux de satisfaction qu'on voulait sur ce modèle-là.
Ouais.
Et là, l'idée, c'était d'avoir en fait, le retour vraiment du commun des mortels, des coureurs de tous les jours qui viennent, qui se déplacent dans une ville pour tester des chaussures et qui nous disent oui, on a plutôt aimé, plutôt pas aimé.
De nous, quoi, donc, Clément. Pense, des gens comme nous, quoi, c'est ça le truc.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
c'est ça. Et je m'inclus dedans.
Ouais, ouais, bien sûr. Je me suis permis de t'inclure dedans, tu vois.
Ouais, je t'en prie.
Fadoua, ton rapport justement avec Puma, toi, ouais, t'as des retours que tu peux faire?
Pour être vraiment transparente, moi, j'ai un rapport génial avec mon équipementier. Déjà, du fait qu'il ait cru en moi déjà pour me rendre professionnelle. Et vraiment, je suis en adéquation avec toute la philosophie de Puma. qui défendent les droits des femmes, ouais. l'écologie, etc. Donc déjà, moi, je suis complètement en adéquation avec leur état d'esprit et la politique de l'entreprise. J'ai la chance d'avoir, moi, quand je fais une performance et que vous avez le N plus 1 qui vous envoie un message pour vous féliciter, c'est juste incroyable. Ouais. Voilà, moi, quand Clément m'envoie un message pour me féliciter après une course, ou j'ai Pascal Rollin, enfin le numéro 1 running, qui m'envoie un message pour me féliciter, c'est incroyable. Il y a vraiment, vraiment, mais là je le dis vraiment, c'est incroyable. Il y a vraiment un esprit de famille chez Puma. Ils nous écoutent, ils nous font confiance et ils nous mettent pas de pression.
Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est pas le cas chez Coutor, d'ailleurs. Non. Tous les équipementiers. Ouais.
Et pour revenir sur les chaussures, ouais. donc c'est hyper important. Et ça, je le dis. Parce que j'ai travaillé dans le marketing, donc c'est important. Mmh. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients, mais ils sont aussi à l'écoute de du marché et aussi à l'écoute des professionnels. Moi, j'ai la chance d'avoir essayé énormément de chaussures en amont, d'être en relation avec la team aux États-Unis, avec la team en Allemagne, avec la team Puma France. Donc forcément, moi, quand je communique pour Puma, je sais qu'on est en mode égérie, mais ils ne me demandent même pas de faire ça. Je me sens vraiment dans la famille Puma. Je n'ai même pas l'impression d'être sponsorisée.
Pas d'obligation.
J'ai l'impression de travailler pour Puma. Je suis tellement fière de porter la marque parce que je suis en adéquation avec la chaussure.
C'est ton côté panthère, ça.
Oui, je pense que c'est le petit côté panthère. Mais c'est aussi le côté, tu vois, mais t'es fière. T'es fière quand... je sais pas, ils te font appel pour essayer une paire de pointes.
Non, bien sûr.
Tu vois, et tu te dis, on te met dans le processus de fabrication, tu vois. Enfin, c'est hyper sympa quand Clément, il me demande mon point de vue sur une Fuse 2, tu vois, une chaussure pour CrossFit. Ça me fait hyper plaisir parce qu'il a vu que je bossais dans une salle de CrossFit. Hop, il me demande mon avis. Hop, il m'envoie quelques chaussures pour mes coachs. Je trouve ça hyper... Il a aucun retour. Il ne m'a pas demandé, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment l'esprit de famille.
Il n'y a pas de contrepartie demandée.
Et ça, je le ressens dans des activations que je fais. Par exemple, ils vont avoir le même investissement avec monsieur et madame tout le monde, voire plus.
Bah oui.
Donc, par exemple... pour des testings sur les Pumas Deviate, je me souviens l'année dernière, mais ils étaient hyper impliqués. Mmh. Et je me dis, moi, l'image que j'ai de Puma quand j'étais jeune, je ne sais pas si tu te souviens du cross du Figaro. Mmh. Je sais pas si c'était sponsorisé par Puma. Mmh. Donc moi, quand j'ai discuté avec Pascal il y a 2 ans, quand j'ai signé avec Puma, je me disais, ah là là, ils reviennent dans le game en fait.
Ouais.
Donc j'étais hyper contente parce que tu as beaucoup d'athlètes, des sportifs de haut niveau, même des tennis women, qui étaient chez Puma. Donc moi, j'étais hyper contente parce que c'est une marque que je connaissais quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je suis dans la famille.
Et voilà.
C'est ça.
Et tu es complètement imprégnée de.
Ah, je suis complètement imprégnée. Ouais. Ouais, Clément, s'il faut signer après, voilà. T'as compris le message. Hein.
Non, mais.
Évidemment. Après, Benoît, je voudrais bien rebondir sur ce qu'elle a dit, Fadoua. Effectivement, on essaye d'écouter au maximum les consommateurs et les athlètes aussi. Sur les consos, avant, je parlais de la tournée de testing. Quand on avait fait tester la première Deviate, on avait obtenu 94% de taux de satisfaction des gens présents.
Ouais.
Et bien sûr, tu as toujours les 6% restants, donc 100 moins 94 à aller chercher. Et ce que les gens, ils n'avaient pas aimé sur la première Deviate, c'était ils trouvaient que le talon, ça grattait un peu. Ils n'appréciaient pas fortement le confort en fait, du talon. Et du coup, ça a été corrigé sur la version 2. Donc toi, tu as pu la tester. En fait, effectivement, on l'a rendu comme un chausson sur le talon parce que justement, il y avait des consos qui disaient « Ouais, mais... » Là, ça gratte un peu et donc on a essayé d'améliorer ça sur la deuxième version. Et après, généralement, le retour qu'on a, il est bon. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire en fait quand on écoute les consommateurs.
Ouais, c'est bien.
Écoutes les consommateurs et tu préfères le consommateur au marché. Enfin, je trouve ça génial. Ça montre vraiment la philosophie de l'entreprise, tu vois.
Ah oui, bien sûr. Et après, c'est une démarche intelligente parce que toi, tu es une championne, mais tu représentes moins d'1% des gens qui vont acheter une Puma, quoi. Donc, c'est sûr que ton ressenti n'est pas le même que quelqu'un.
C'est pas le même. Mais après, moi, c'est mon outil de travail.
Oui, c'est sûr. Tu l'utilises beaucoup plus. C'est sûr.
Moi, une paire de chaussures, il faut que je me sente en sécurité.
Ah, justement.
Et voilà.
On va te faire plaisir. On va parler du modèle, ton modèle préféré, la Fast Air, parce que c'est le beau cadeau qu'on vous fera gagner. La communauté RMC Running, deux paires de Fast Air, un modèle, c'est le plus beau modèle peut-être de Puma, parce que c'est un modèle à 250€, c'est le modèle carbone.
Il y a la Deviate 2,
ouais.
Qui est l'élite, qui est vraiment, vraiment bien. Mais moi, pour ma foulée, ma façon de courir, la Fast Air me correspond parfaitement parce que du coup.
Pour toutes les distances ?
Ouais, pour toutes les distances, c'est incroyable. Alors là, je m'entraîne vraiment avec l'élite, la Deviate 2 Elite. Là, j'ai fait une séance hier avec. Et j'hésite pour mon prochain 10 km.
Oh.
Ouais, j'hésite, donc je te dis, vous verrez. Entre la phase R et la Deviate 2 Elite. Je ne sais pas encore.
J'aime bien le teasing, vous verrez.
Ah ouais, ouais. Bah, j'hésite. Bon, en tout cas, sur le marathon, c'est
le
sûr.
Le pied gauche met la phase R et l'autre, tu mets la Deviate.
Ah là là. Mais en fait, avec l'Elite, la Deviate, tu cours vite. Parce qu'il y a une propulsion vers l'avant, tu vois.
Ça m'intéresse.
Et en fait, j'ai tellement l'habitude. Je pense que pour monsieur et madame tout le monde, c'est l'Elite, elle est très bien parce qu'il y a une propulsion vers l'avant et ça te force à monter les genoux. Mais vu que moi j'ai une foulée rasante et que j'attaque talon, c'est vrai que l'amorti de la face R me convient parfaitement, tu vois.
Comment tu peux me la décrire, toi, Clément, la face R, alors?
La Fast Air, c'est un de nos deux modèles haut de gamme, comme le disait Fadoua. Donc, on a à la fois la Deviate Nitro Elite 2 et la Fast Air Nitro Elite, qui sont un peu différentes, en fait. Je dirais que la Deviate, elle a un peu plus d'amorti tout en ayant du dynamisme. Mais la Fast Air, en fait, elle a moins d'amorti, mais elle est beaucoup, beaucoup plus dynamique que la Deviate. Après, honnêtement, ça dépend des préférences des athlètes. Effectivement, il y en a qui utilisent plutôt la Deviate Nitro Elite 2, il y en a qui utilisent plutôt la Faster Nitro Elite. Ce que je peux dire sur la Faster, c'est que c'est effectivement notre modèle le plus haut de gamme sur le papier, parce que c'est aussi le modèle qu'on vend au prix le moins raisonnable, pour pas dire le plus cher.
Ouais.
Donc on est effectivement à 250 €. Après, pour entrer dans la technique, on est aux alentours de 225 grammes. Donc ça, c'est plutôt en prix en taille 42.
Après, c'est le prix des modèles haut de gamme de running carbone, ouais, aujourd'hui.
Effectivement. Après, certaines marques concurrentes montent même un peu plus haut. Je pense que globalement, Puma, on se situe un peu plus comme des challengers au niveau prix. Globalement, sur les chaussures, hein, quand on regarde l'intégralité de la gamme, ce qu'on offre, en fait, un rapport qualité-prix est très compétitif par rapport à la concurrence. Donc, c'est effectivement notre modèle haut de gamme qu'on a sorti. Alors, c'était quand ? C'était SS22, donc printemps-été 2022. Ça fait une grosse année que la chaussure est dehors. Il y a pas mal d'athlètes qui l'utilisent chez Puma, à l'international. On a le meilleur de nos technologies dedans. On a la mousse Nitro en version Elite. Donc, je le mentionnais tout à l'heure que c'est la gamme, effectivement, de la technologie de mousse. On a la version Elite. Et on a un revêtement Puma Grip sur la semelle extérieure. Donc, on est assez content, en fait, de ce revêtement parce qu'il a été conçu exprès pour accrocher sur sol mouillé. Parce qu'en tant que coureur, on n'a pas envie de se demander, prochain virage, il y a un peu d'eau, est-ce que je vais glisser ou pas. Après, ce que je trouve intéressant également sur la chaussure, c'est qu'esthétiquement, elle sort un peu du lot avec une plaque carbone en 7 couches qui est apparente. On le voit, en fait, quand on regarde la chaussure,
c'est vrai,
la plaque carbone, elle sort à l'extérieur. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'il y a deux mousses avec des densités différentes, à la fois sur le talon et sur l'avant-pied, et ça permet d'obtenir plus de stabilité.
Coloris, il y a combien de coloris ? Parce que je vois les jaunes, moi, sous les yeux, d'ailleurs. Modèle jaune qui est très beau, très flashy. Il y a plusieurs coloris disponibles ?
Alors, il y a eu le modèle jaune quand il est sorti au printemps-été 2022. Après, automne-hiver 2022, toujours, on a eu un modèle plutôt couleur feu. Enfin, j'ai un peu du mal à le décrire. C'est plutôt orange-jaune. Ouais, okay. Un mélange entre les deux.
Ouais.
Donc, un mélange avec un dégradé orange-jaune. Et maintenant, on est plutôt sur un modèle en mélange bleu et bleu-vert. Donc, ça, c'est pour la saison actuelle, printemps-été 2023.
Votre côté
et pour la saison à venir. Pardon ?
C'est votre côté écologiste.
Peut-être le côté écologiste, ouais. Ça peut, on peut penser ça, effectivement. Et après, après pour automne-hiver 23, donc plus tard cette année, à partir de cet été, tu mentionnais à l'instant, pourquoi pas porter sur un pied la Deviate Nitro Elite 2 et sur l'autre pied la Faster Nitro Elite. Justement, en fait, ces modèles-là vont arriver pour la saison en cours, donc à partir de l'été, avec un coloris différent pour chaque pied. Donc,
pied. J'avais pas tort. Et voilà, tu l'apprends, Fadoua aussi. Voilà, c'est ça. Juste dernier mot, ça s'adresse à tout type de coureur et c'est pour quelle distance, à ton avis, Clément ?
Ouais, c'est alors plutôt coureur confirmé, hein, comme c'est quand même un modèle élite.
Bien sûr.
Pour les distances, on recommande du court, plutôt court à partir de 10 jusqu'au marathon, ouais, sans problème.
Quand même sur le marathon. Ok, on peut attaquer du marathon.
Ouais, quand même sur le marathon, comme je disais avant, il y a pas mal d'athlètes qui courent. On est à peu près à 50-50 en proportion. Il y a pas mal de marathoniens en fait qui utilisent cette chaussure pour les distances longues. On est assez content de la durée de vie, même si, comme le disait Fadoua, on recommande plutôt en fait les jours de compétition et pas faire son volume avec, hein, comme tous les athlètes qui font du foncier. Et même Fadoua, je pense qu'elle fait pareil, c'est 80-90% du volume sans carbone.
Ah oui.
Donc garder le carbone pour les jours de course ou pour vraiment les séances de qualité. Hein, Johan est très attaché à la qualité et je pense qu'on va le faire. Enfin, c'est la même chose pour ce modèle-là. Et puis voilà, coureur tout coureur confirmé, attaque talon ou pas.
Oui.
Okay. C'est important de le dire, ou médio-pied.
Bah, de toute façon, si, je pense, si une chaussure est faite pour une attaque talon, elle peut être faite pour tout le monde. Parce qu'au final, tu vois. Par contre, je vais juste relever quelque chose. Moi, je compte les kilomètres de mes chaussures. Et il a raison, la durée de vie
c'est important.
La Fast Air. Donc moi, j'ai fait les France de 10 km, le semi et la petite compète là en Italie.
La même chaussure ?
Ouais, avec la même chaussure.
Paire. Ouais.
Parce que je ne ressentais pas le besoin d'en demander une nouvelle et j'ai ressenti les mêmes effets, plus les entraînements. Donc je suis déjà à 280 km avec la chaussure. Et si je dois faire une compète, je pense que je la prendrai encore là ce week-end.
Ah ouais, sacrée durée de vie pour une
Mais c'est très intéressant parce qu'au niveau du rapport qualité-prix,
il
n'y a pas beaucoup de chaussures sur le marché où tu peux faire plus de 200 km et tu as encore les bénéfices de la chaussure.
Ouais, ouais, elle est bonne, c'est une bonne RP. Quoi.
mais je crois tellement en cette chaussure. Ouais, tu sais, l'année dernière, juste petite info, l'année dernière, j'avais fait une photo, j'avais mis un avion de chasse derrière, etc. Ouais. Mais moi, tu sais, je pense que tu commences à me connaître. Moi, c'est où j'aime pas, ouais. Tu vois. La DVIA 2 Elite, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'adore.
Où t'aimes ou tu vires, c'est ça.
Non, mais voilà. Allez, hop. mais la face R, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Moi, je sais que le marathon, c'est la face R.
Ok, c'est fait.
Voilà.
D'accord.
Tu verras.
La précision est importante. Merci à tous les deux. Je rappelle, on fait gagner deux paires de Fast Air du coup. Et pour gagner, c'est très simple. Communauté RMC Running, vous laissez un commentaire sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Strava et Instagram. Et en plus, on vous demande une note et un commentaire sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify ou Deezer. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du portrait de Fadoua, voilà, de l'épisode qui vient de se passer. Avec plaisir, on est toujours preneur de retour. Merci Clément d'avoir été avec nous, c'est très sympa.
Merci Benoît.
Tu reviens quand tu veux pour présenter un coloris glace ou un coloris ce que tu veux, peu importe. Tu es le bienvenu dans RMC Running. Merci à Fadoua.
On a un rendez-vous donc pour le prochain marathon.
Valence.
Donc,
après. L'avant, après, les deux. Pas. T'inquiète pas, s'il faut te réinviter, on te réinvitera. C'est pas un problème. Et puis on se verra peut-être à Valence du coup. Du, il sera aussi.
C'est ça.
Il serait aussi, donc on verra.
On y sera tous.
On y sera tous.
On y sera tous, c'est ça. Ça peut être un bon moment à Valence. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci,
et on a toujours cette tradition pour terminer. Je t'ai demandé ce matin la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu avais beaucoup de propositions. Et tu peux nous dire ce que tu as choisi ? C'est Meek Mill.
Yes.
Et la chanson, c'est le nom de la chanson ? Je l'avais sous les yeux, je vais te le dire. C'est Uptown Vibes.
Yes.
Voilà. C'est ça, hein ?
C'est plus. Ouais, mais avec le featuring.
Avec le featuring.
Ouais.
Voilà. Et il y a le featuring là.
Voilà, c'est bon.
C'est bon.
C'est très important.
J'avais failli me faire virer.
Ah ouais, non mais là, t'avais.
Non mais.
Yodi, avec ses nerfs.
Yodi, elle m'a lancé un regard, ouais. J'ai pris peur. Je te jure, j'ai pris peur.
Ah ouais. Mais non.
Si t'as pas mis la bonne chanson, ça va.
J'ai sorti avec le featuring.
Ah, c'est ça. J'ai mis une pression de fou. Laisse tomber,
Tu vas faire 3x400.
J'ai transpiré carrément. Bon, merci Fadoua d'avoir été là.
Merci à toi.
Merci Yodu, c'était très
merci
sympa.
Merci à tous.
Encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine. Toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.